De Lampedusa à Calais. Deuxième partie. Philippe, Lucie, Camille et Camille abordent le thème de Frontex et Moss My Room.
Bon, on a parlé de Lampedusa, on a parlé de politique européenne, de festival, d'empreinte, de Arty, de plein de choses. Il y a plein de mots qui sont sortis. Et peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, on aimerait préciser deux, trois termes. Tout à l'heure, on parlait de Mare Nostrum, c'était cette opération italienne un peu poussée au cul, comme on dit, par la Commission européenne des droits de l'homme pour que la marine italienne fasse du secours en mer des personnes sur les embarcations. Et on a dit que là, bah, c'était la fin de cette opération Mare Nostrum avec Frontex, donc qui reprend, qui reprend un petit peu la tête d'une nouvelle opération. En tout cas, d'un changement de politique. Et du coup, est-ce que, Philippe, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que Frontex déjà, et puis voir un peu où on en est maintenant.
Alors Frontex, c'est une agence de l'Union européenne qui a pour mission la surveillance des frontières, avec d'une part un travail d'étude, de compilation des informations, de renseignement, d'identification, etc., pour le compte des différentes polices européennes. Ils interviennent directement pour des opérations européennes coordonnées de surveillance des frontières, ce qui veut dire qu'il y a des unités de différentes polices européennes qui vont intervenir à un moment donné, surtout sur des frontières maritimes, par exemple entre les Canaries et le Sénégal et la Mauritanie, par exemple entre l'Italie et puis la Tunisie et la Libye, par exemple entre les îles grecques et la côte turque. Donc souvent leurs opérations sont des opérations maritimes, mais on a aussi des opérations terrestres, notamment à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Donc concrètement, il y a une opération qui se décide au niveau du siège de Frontex. Il y a un appel aux différents pays européens pour qu'ils mettent à disposition des policiers, gardes-côtes, gardes-frontières, etc., et du matériel, des bateaux, des hélicoptères, éventuellement des drones, des avions, enfin ce qu'il faut pour que l'opération tourne et l'opération est mise en place. Traditionnellement, en fait, Frontex a assez peu de moyens matériels. Donc Frontex a plutôt un rôle de mobilisation des moyens des différents gardes-côtes. Il est probable que si les États européens étaient dans une logique de délégation de souveraineté à l'Union européenne, on aurait des gardes-côtes européens, en fait. C'est quelque chose qui revient dans le débat de temps en temps, un peu présenté comme étant la solution, hein, mais si on avait des gardes-côtes européens, il n'y aurait plus ce problème-là, etc. Mais du coup, la surveillance des frontières est vraiment ressentie par chaque État comme étant ses prérogatives propres, donc ils ne sont pas prêts à le déléguer au niveau européen, et puis en même temps, il y a le besoin d'outils communs, donc on a créé ce machin-là. Mais du coup, ce machin-là qui est autonome par rapport à l'Union européenne, qui a sa propre diplomatie, c'est-à-dire que Frontex va avoir des accords avec différents États extérieurs à l'Union européenne, en termes d'échange de données, en termes de surveillance, en termes de présence éventuelle d'agents de Frontex sur le territoire, voilà, en termes de formation des personnes. Et Frontex organise aussi, c'est l'un des autres volets de son activité, des vols communs d'expulsion. Donc par exemple, Frontex va avoir une commande du gouvernement britannique, du gouvernement belge, du gouvernement espagnol, pour organiser un charter pour le Nigeria. Donc du coup, l'avion va partir du Royaume-Uni, va faire escale en Belgique, va faire escale en Espagne. À chaque fois, ils vont charger des gens qui vont être expulsés vers le Nigeria, par exemple, ou vers d'autres pays, ce qui permet de mutualiser les moyens et de diminuer les coûts. Avec toute la question que ça pose, voilà, on est un peu dans une logique d'expulsion de plein de gens dans le même avion. Alors effectivement, théoriquement, pour chacun, on a pris en compte officiellement sa situation individuelle. N'empêche que c'est un charter complet et que ça fait un peu expulsion collective et que les expulsions collectives, elles sont interdites en droit international, quoi. Et en Belgique notamment, ça a déjà été vu plusieurs fois, c'est qu'à un moment donné, on arrête des Ghanéens. On met plein de Ghanéens en rétention et puis pouf,
Faire un
on fait un
grand chat.
charter. Donc
J'ai
voilà quoi.
même entendu que ça se faisait au niveau de plusieurs pays européens, non? Que
Oui, oui,
parfois
oui.
ils organisaient ça, un charter. Enfin, je sais pas si j'ai bien compris, mais qu'ils
Oui,
disaient
c'est bien le
genre
rôle de Frontex.
Lille, Bruxelles, Cologne, hop, on prend tous les gens qui doivent être expulsés vers le même pays.
Ouais. C'est les
Donc
vols
là,
organisés par Frontex,
voilà. Donc
ouais.
ça.
Et après, il y a tout un volet de l'activité de Frontex qui est plus discret. Mais en fait, Frontex est présent dans plein de salons sur les technologies de pointe en termes de détection, etc. Et il y a beaucoup de liens avec les secteurs industriels qui développent ces technologies, que ce soit les caméras infrarouges, les systèmes de détection, les drones. Les différents types de
Patrouilles
robots,
automatisées, ouais, les
voilà,
robots.
etc. Donc en fait, on a une espèce de pont entre des secteurs industriels
Privé.
qui privés bien sûr, oui, qui ont des intérêts dans le développement de la surveillance aux frontières. Et puis, du coup, par l'intermédiaire de Frontex, les polices, gardes-côtes, gardes-frontières, etc., des différents États qui sont des clients potentiels, et Frontex au milieu qui joue un rôle de catalyseur et de pont entre des secteurs économiques et puis des acteurs publics, et qui, quelque part, font se rencontrer l'offre et la demande et
C'est une agence de
suscitent la
gardiennes
demande
européenne, quoi.
en. Voilà, c'est une sorte de. Oui, de VRP.
Frontex, son siège, il est à Varsovie, en Pologne, je crois.
Ouais.
Je crois que c'était une mission qu'on leur a confiée quand la Pologne est rentrée dans l'Union européenne, d'accueillir Frontex, il me semble.
Peut-être, je sais pas.
On va pas dire de bêtises. Eh ben. Ben voilà, on en sait un petit peu plus, un peu plus clair pour Frontex.
Donc du coup, concrètement, Frontex a déjà fait plusieurs opérations en Méditerranée.
Ouais, oui, ça existe depuis plusieurs années en
Oui,
fait.
en général des campagnes de quelques mois dans l'année, pas forcément toute l'année, pas forcément avec une efficacité extrême. C'est-à-dire ce qu'on a vu en 2011, c'est qu'il y avait à chaque fois un double dispositif. C'est qu'en fait, on a les gardes-côtes tunisiens ou libyens pour 2011 qui interceptent les bateaux qui essayent de partir ou qui essayent de choper les gens sur la plage au moment où ils embarquent. Et puis après, à l'entrée des eaux territoriales, on a Frontex qui arrête ceux qui n'ont pas été arrêtés par les gardes-côtes des pays de départ. Révolution en Tunisie, les gardes-côtes arrêtent d'empêcher les gens de passer. Guerre civile en Libye et révolution, les gardes-côtes arrêtent d'empêcher les bateaux de partir. Et puis plein de gens arrivent en Italie, parce que finalement, Frontex tout seul, sans cette coopération avec les pays de départ, ben finalement, c'est pas si efficace que ça, quoi. Donc on a un peu voilà. Ce qui montre qu'il y a un peu une double politique, il y a une politique de surveillance des frontières, mais il y a aussi une politique d'externalisation des contrôles, c'est-à-dire on implique les pays de départ dans la surveillance et dans le fait d'empêcher les gens de partir. Et finalement, c'est peut-être ça le plus efficace.
Et oui,
Et là, comme et là d'ailleurs, on est tellement dans dans ce constat qu'il faut faire encore plus que on n'a pas une opération Frontex là. On a une opération Frontex Plus qui va se mettre en place en Méditerranée centrale entre la Libye et l'Italie, histoire de montrer que voilà, c'est comme la lessive plus,
Là, c'est
c'est
mieux.
celle qui voilà.
Qui lave plus blanc que blanc, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est Frontex Plus pour une Méditerranée plus étanche. Je ne sais pas comment ils vont vendre ça, mais.
Donc ça, c'est la nouvelle phase, la nouvelle phase Frontex qui se met en place en fait en ce moment.
Ouais, et le dernier communiqué que j'ai vu sur le site de Frontex, par contre, il disait qu'ils avaient à peu près réuni les bons hommes, mais qu'ils n'avaient pas encore tous les équipements dont ils avaient besoin.
D'accord.
Donc il y a quand même apparemment une difficulté, même pour une opération Frontex Plus,
Ouais.
de mobiliser les moyens des différents États européens.
D'accord. Et on, là, on a, y a, on a, enfin, on, apparemment, ça s'exprime aussi là, parce que c'est eux qui ont lancé l'opération Moss My Room.
Alors, c'est pas seulement eux. C'est en fait des opérations coordonnées des différentes polices européennes. Donc du coup, il y a Europol qui chapeaute tout ça. Et il y a Frontex pour la partie, parce qu'effectivement, il y a des opérations tous les 6 mois, 1 an. Apparemment, chaque État, quand il a la présidence de l'Union européenne, il fait sa petite opération à lui. Donc comme ça tourne tous les 6 mois, on en a plus ou moins tous les 6 mois. De temps en temps, il y en a un qui passe son tour. Et puis depuis 2 ou 3 ans. Alors jusqu'à présent, on n'avait pas trop observé finalement. Et puis là, il y a Statewatch, qui est une organisation qui est basée au Royaume-Uni, qui a obtenu les documents en fait de la Commission européenne par rapport à cette opération-là, donc qui les a diffusés. Donc du coup, on a plein de trucs qui ont circulé, et du coup, un peu tout le monde observe ce qui se passe. Avec la difficulté, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas fait attention et c'était pas flagrant qu'il se passait quelque chose. Il faudra faire le bilan de qu'est-ce qui s'est vraiment passé en lien avec cette opération pendant ces 15 jours, qu'est-ce qui relève des rafles habituelles, parce que malheureusement, des contrôles, des rafles, etc., il y en a tout le temps. Et quand ils marquent qu'ils vont faire une opération coordonnée impliquant 18 000 policiers, gardes-frontières, gardes-côtes sur tout le territoire européen, etc., est-ce que ça veut dire qu'il y a 18 000 policiers qui vont faire des contrôles pendant ce temps-là? Ou est-ce qu'en fait chaque État met ses contrôles habituels et on essaye de faire un gros truc qui est un peu un paquet vide? Alors ce qu'on espère, c'est que c'est une opération de com avec un paquet vide, comme ils savent faire de temps en temps. Sauf que quand même s'il n'y a pas beaucoup plus d'activité, mais ça il faudra le vérifier, enfin il faudra voir s'il y a plus d'activité ou pas, on ne sait pas encore. Même s'il n'y a pas plus d'activité, le fait qu'ils se connectent et qu'ils échangent des infos, c'est des habitudes de travail. C'est des circuits d'échange qui se mettent en place, donc c'est aussi une coopération entre les polices qui va devenir plus efficace pour chasser les étrangers. Donc Mos Maiorum et les autres opérations, c'est des opérations qui sont ciblées sur les sans-papiers, en fait. C'est pas pour arrêter les bandits.
Oui, contrairement à ce qu'ils prétendent. Parce que une des raisons qui est présentée dans ce projet-là, là, qui est en ce moment, c'est quand même lutter contre le banditisme et les mafias de passeurs.
Oui. Sauf que quelque part, si les frontières sont pas fermées, il n'y a pas de contrebandier, quoi.
Ouais, et on peut rappeler que cette opération, la Mos Maiorum, donc elle a commencé le 13 octobre, elle devrait s'achever le 26 octobre. Donc c'est 2 semaines un petit peu intenses. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, à Calais, là, ça fait pas très longtemps, mais que dans la ville, bah, il y a de l'affichage un peu pour sensibiliser les gens. On sait qu'il y a des gens aussi qui ont fait un peu des affichages dans d'autres villes. Qui pouvaient être un peu bah, les grosses villes sont des points forcément sensibles de transit et de voyage pour les gens. Donc du coup, il y a eu pas mal d'infos qui a été fait à Paris, Gare du Nord, à La Chapelle, à Lille aussi, beaucoup de pas mal de sensibilisation apparemment. Roubaix, et sûrement d'autres endroits parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de mouvements au niveau européen. D'organisations, de mouvements qui se mobilisaient pour faire de la sensibilisation pour ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, bah, des fois, on peut se demander à Calais, qu'est-ce que ça va faire de plus, même que le quotidien, parce que là, peut-être que maintenant, on peut arriver à rediscuter un peu plus de ce qui se passe à Calais en ce moment. Mais c'est vrai que pour pas mal de gens, ça ressemble à quelque chose. Mice My Room, c'est peut-être quelque chose de plus qui vient rajouter de la pression supplémentaire à se dire que ça va être pas évident, que si on n'a pas envie de rester à Calais ces jours-ci, qu'on a envie de voyager, ça va être plus compliqué. Mais que, clairement, quand les gens sont à Calais, ils ont déjà une liberté de circulation qui est assez étroite, quoi, suivant les heures du jour ou de la nuit. On sait que dans les jungles, bah, les gens, ils ont du mal le soir à se déplacer facilement parce qu'il y a beaucoup de contrôles, beaucoup de CRS qui les repoussent pour qu'ils essayent de les repousser vers les camps, les choses comme ça. Donc, bah bon, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, Philippe, je crois que tout le monde a un petit peu essayé de mener ses observations pour voir si ça fait quelque chose de plus ou pas, Mos Maiorum. Du coup, on pourra peut-être faire un petit bilan un petit peu plus tard, peut-être à la fin à la fin de cette opération pour voir s'il y a vraiment des choses en plus ou pas, quoi.
Ouais, par contre, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a quand même eu pas mal d'arrestations, notamment à Grenoble et quand même aussi à La Chapelle, cette dernière semaine, et que les contrôles, s'ils ne sont pas suivis d'interpellations, ils sont assistés de questionnaires sur la provenance des gens, les moyens par lesquels ils sont arrivés là. Et donc il y a quand même une récolte d'informations qui est différente du quotidien, quoi, quand même.
De Lampedusa à Calais, fin de cette deuxième partie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lampedusa.unil.wordpress.com, passeurdhospitalité.wordpress.com ou encore calaismigrantssolidarity.wordpress.com.